Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview afin d'annoncer une projection d'un film qui s'intitule « Nous n'avons pas peur des ruines ». Au studio sont présents Gisèle, bonjour.
Bonjour.
Et Seb, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour tout le monde.
Vous êtes donc membre actif aussi de l'ETPIX, un syndicat émanant de la CNT. Et pour cela, je peux demander à Seb ce que signifie cet acronyme.
Alors l'ETPIX CCD26, c'est le syndicat des employés, travailleurs, travailleuses, précaires des industries du commerce et des services de la communauté de communes du Diois. Créé depuis peu et qui se met à fonctionner et qui est en train de, voilà, de doucement prendre son rythme de croisière et de mener ses premières actions, là, notamment en participant à l'organisation de cette projection du 12 mai à l'espace social.
Je t'avais reçu il y a quelques semaines pour annoncer justement cette constitution, oui. Donc un bout de chemin a déjà été parcouru et tu nous raconteras aussi les ambitions aussi organisatrices peut-être de cette structure.
On pourra passer quelques minutes là-dessus, oui, avec plaisir.
Et d'ailleurs Gisèle également, membre donc actif de cette association, de ce syndicat plutôt, qu'est-ce qui t'a attiré à l'ETPIX?
Eh bien, en fait, je connais Seb et Fabienne, qui sont membres, tous les deux, bien sûr, depuis mon arrivée à Di. Et on se trouve qu'on a pas mal de points communs. On s'est rencontrés pendant les Gilets jaunes, donc voilà, ça a fait déjà un bon lien. Et puis ensuite, on s'est vus lors de manifestations diverses. Et voilà. Et donc j'ai décidé d'adhérer.
On peut peut-être parler aussi donc de cette constitution qui a été voulue au départ. D'ailleurs, on peut parler aussi de ces personnes qui avaient cette envie de voir cette concrétisation.
En fait, l'idée, c'est parti du fait que on s'est dit que dans le Diois, il y avait des spécificités de travail et un relatif isolement géographique qui valait la peine de tenter de monter une structure syndicale. Pour les spécificités, je pense aux travailleurs saisonniers, que ce soit en agricole ou en tourisme, restauration et autres. Et puis, on s'est aussi rendu compte que beaucoup de gens vivaient et travaillaient dans le Diois sans nécessairement aller militer beaucoup plus loin. Et que donc, ça nous paraissait pas mal de pouvoir se baser sur l'identité ouverte du Diois pour essayer de proposer une structure qui peut abriter plusieurs types d'actions proprement liées au travail, donc proprement syndicales, mais aussi tout ce qui touche au cadre de vie, à l'environnement, donc comme il est écrit dans les statuts, à la défense des intérêts économiques et moraux des travailleurs et travailleuses du Diois.
Alors, il y a diverses activités dont se charge l'ETPIX, notamment celle d'organiser cette projection qui aura lieu donc à la salle communautaire ce dimanche 12 mai à partir de 19h à l'ESCDD, un film qui s'intitule donc « Nous n'avons pas peur des ruines », un film de Yanis Yuluntas. C'est en quelque sorte un documentaire ou il y a un peu de fiction également, Gisèle?
Moi, je pense que c'est un documentaire. Je ne l'ai pas vu, je suis une des rares à ne pas l'avoir vu. Mais je pense que c'est un documentaire, c'est exclusivement centré sur le quartier d'Athènes qui s'appelle Exarchia et qui est un lieu en lutte depuis des années et des années. Ça a commencé, enfin je ne sais pas si tu veux que je parle de...
Si, il y avait eu quelques échos en France de ce qui se passait dans cette ville d'Athènes. Je crois que c'était en combat contre le gouvernement à ce moment-là.
Ça a commencé en fait en novembre 73 à l'école polytechnique d'Athènes qui est très très proche d'Exarchia, à 200 mètres en fait. du temps des colonels. Donc les étudiants entament un soulèvement contre la junte militaire. Et le 17 novembre, les colonels envoient l'armée dans la faculté. Donc c'est le début de l'histoire de la résistance du quartier, en fait. Ça fait quand même 24 morts, hein, c'est pas rien. Et voilà. Et ensuite, à la fin des années 70, Exarchia est devenu le bastion des mouvances anarchistes grecques, un lieu d'affrontement récurrent entre les policiers anti-émeutes, l'équivalent de nos CRS, et les gens du quartier. Voilà. Ce quartier lutte pour sa survie. Le dernier projet de la mairie d'Athènes avant démolition totale, c'est de construire une station de métro. Ceci sans concertation, sans information, sans autorisation d'urbanisme, ce qui est obligatoire. Et ça, sur la place du quartier contestataire d'Exarchia. Donc, un matin très tôt, genre 4 heures du matin, la place a été barricadée de palissades et de barbelés. Et la lutte des opposants a commencé sérieusement. 4500 personnes ont manifesté contre ce chantier, déjà, pour commencer. Voilà un peu.
Seb, tu avais connaissance de ces actions au sein de cette ville d'Athènes ?
Oui, et puis notamment grâce au précédent film de Yannis Yununta. Ça, c'est en gros, c'est un peu le quatrième volet. Donc, il avait sorti un film qui s'appelait Nous ne vivrons plus comme des esclaves. Ensuite, Je lutte, donc je suis. Un troisième dont le titre m'échappe à l'instant. Et puis le quatrième, Nous n'avons pas peur des ruines, qui est une phrase qui est attribuée à Durruti, le révolutionnaire espagnol des années 30, hein, en 36, contre la junte militaire pour la République espagnole. Et Durruti avait prononcé cette phrase pour dire qu'en fait, peu importe ce que coûterait... notamment matériellement, le combat des républicains espagnols et des anarchistes espagnols, ils iraient jusqu'au bout pour préserver leur mode de vie et échapper à l'emprise de l'État espagnol franquiste qui s'annonçait, quoi.
Tu peux nous parler un peu donc de Yannis Yununtas, donc tu connais, je suppose que tu as visionné ces trois premiers films. Est-ce que il y a un fil commun à ces œuvres? Est-ce qu'il suit un cheminement de réflexion, de constat, ou de dénonciation également?
Ben en fait, ce que ces films montrent, c'est la capacité des gens ordinaires à s'organiser en dehors de toute structure coercitive. C'est vraiment le fil conducteur de ces différents longs métrages. Et donc en fait c'est des films à la joie de vivre, mais qui montrent aussi les obstacles que l'État met dans sa volonté de contraindre la population, de la contrôler. Et il montre comment on peut créer des brèches, comment on peut s'auto-organiser, comment on peut auto-gérer nos vies en mettant en commun le peu qu'on a, mais qui est suffisant pour mener une vie digne et joyeuse, quoi, en fait. C'est vraiment ce qui ressort de ces films. Et j'imagine que le quatrième est à cette image de pulsion de vie, quoi, en fait. Déjà, le premier titre, Nous ne vivrons plus comme des esclaves, ça marque le tempo, quoi, en fait. Hein.
Ce sont des longs métrages?
Oui, c'est des films de à peu près 1h20 environ.
Ouais. Et ces quatre films ont été produits sur quelle période?
Nous ne vivrons plus comme des esclaves, je me demande si c'est pas autour de 2008 ou 2010. C'est venu, si je me rappelle bien, alors là, tu me poses un peu une colle, mais je pense que c'est venu après la fameuse crise, la conséquence grecque de la crise des subprimes.
Oui. Et est-ce qu'au fur et à mesure de ces productions, est-ce qu'il y a, on peut remarquer malgré tout un progrès, ou alors à chaque fois il y a un éternel recommencement face à cette oppression ou à ces complications?
Oui, il y a une volonté d'auto-organisation, elle fait l'objet de répression. Et les habitants du quartier arrivent toujours plus ou moins à se reglisser dans de nouveaux interstices pour pouvoir continuer à mener leur vie comme ils l'entendent. Hein. Et pour ce qui est de la bio de Yanis Yuluntas, je préfère donner la parole à Gisèle.
Oui, alors je me suis un petit peu penchée sur sa vie, effectivement. En fait, il n'a pas seulement fait des films, il a fait des films en effet, mais c'est aussi un philosophe, un poète, un écrivain et un réalisateur franco-grec. Il est aussi beaucoup formateur et intervenant auprès des publics frappés d'exclusion sociale, les classes relais, les détenus, les migrants, les SDF, les handicapés par exemple. Et donc il a été aussi créateur de dispositifs d'éducation à l'image et de philosophie pour les enfants. Voilà, il est aussi chroniqueur dans des journaux et il a écrit beaucoup. Voilà, pour l'instant, j'en suis là sur la vie de Yanis.
Il y a peut-être des pistes qui sont données dans ces films. D'ailleurs, comment déjouer un peu les politiques gouvernementales ou ces répressions? Est-ce qu'il y a d'autres moyens que le numérique pour communiquer, par exemple?
Eh bien, ça, c'est sûr que c'est sur place. Hein. Et ça, je pense qu'on le verra dans le film, comme on a pu le voir dans les autres.
Toi, Seb, qui a vu les films, est-ce qu'il y a des modes d'emploi en quelque chose, en quelque sorte, qui sont proposés?
Alors, mode d'emploi, ce que Yuluntas filme, c'est de la propagande par le fait.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il faut s'organiser pour pouvoir faire quelque chose qui tienne la route et dont on puisse espérer qu'il y ait une certaine durée, sans qu'il y ait de volonté de la figer. Et en fait, les choses disparaissent à cause de la répression. Il y avait de très 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 nombreux squats à Exarchia, et beaucoup d'entre eux ont été fermés. Et d'ailleurs, une partie des habitants sont en train de se rabattre sur des quartiers plus éloignés du centre, hein, de la plus grande banlieue d'Athènes, pour pouvoir continuer à mener leurs expériences. Donc en fait, ils restent dans une dynamique d'opposition et de volonté d'échapper à l'emprise de l'État. Et voilà, c'est aussi un message d'espoir. Et en dehors des films, il y a depuis déjà de plusieurs années des liens de solidarité qui sont faits. Alors, je vais parler que pour la France, mais dans d'autres pays, c'est valable aussi. Où en fait, des militants français s'organisent pour pouvoir amener vers Exarchia des convois de médicaments, de matériel, voire de nourriture aussi, pour pouvoir soutenir le mieux possible les habitants du quartier et leur donner, d'aussi loin qu'on est, le plus de chances de pouvoir continuer à mener leur lutte.
Parce que, semble-t-il, selon tes propos, il y a une urgence sur ce quartier au point d'envoyer des médicaments, des aides, des soutiens.
En fait, non seulement la population d'Exarchia est globalement très précaire, donc en fait c'est pour ça que aussi la stratégie de l'État grec, c'est de boboiser le quartier, hein, c'est le gentrifier, pour pouvoir se débarrasser de cette population. Et donc en fait, je pense que ça les arrange, ils ne doivent pas l'ignorer, les volontés de déplacement de certains vers des banlieues plus lointaines. Et donc cette population précaire, oui, elle a besoin d'aide, ça c'est sûr, surtout que la crise économique en Grèce, en fait, elle était épouvantable. Les Grecs en payent toujours les effets aujourd'hui. Ils ont été dépouillés de leurs services publics, leurs ports, leurs aéroports, tout ça a été vendu Je pense par exemple au port du Pirée, à des Chinois, à des sociétés chinoises. Donc en fait, ils ont bradé tout ce qui relevait du public, ils s'en sont débarrassés. Et donc, les services publics, c'est la richesse du pauvre. Donc si en Europe occidentale, les pauvres ont plus ou moins le nez au-dessus du niveau d'eau, c'est grâce aux services publics. Donc à partir de là, quand on se met à les massacrer et qu'en même temps on massacre les tentatives d'auto-organisation, ces gens ont besoin d'aide. Et il y a de très nombreux convois qui sont partis ces dernières années vers Exarchia.
Et c'est d'ailleurs...
Et la Thessalonique.
Pardon, je te coupe.
Vas-y, vas-y.
Et c'est d'ailleurs comme ça que l'histoire de Die, la projection à Die est arrivée, parce qu'il y a des habitants de Die qui sont allés, il y a un mois, un peu plus d'un mois à peu près, qui sont allés à Athènes participer à un convoi, justement. Et donc, du coup, après, ils ont dû discuter et penser que c'était opportun de faire une projection aussi à Die.
Ces personnes dont tu parles, qui sont allées en Grèce, donc, seront présentes à cette projection pour peut-être aussi parler de leur expérience?
Eh bien non, justement, ils sont tous les deux échappés vers d'autres directions de leur vie. Enfin, voilà. Donc non, ils ne seront pas là dimanche soir. Mais on les connaît très bien et ils nous ont... Ils nous ont bien raconté aussi ce qui se passait. En fait, ce quartier... résiste depuis longtemps. Ils ont fait beaucoup de réalisations. Ils ont recréé un parc autogéré, hein, qui était un ancien terrain bétonné qui a été réhabilité et replanté par les habitants. Par exemple, il y a toujours des stands solidaires, il y a toujours des soupes populaires, il y a un centre de soins autogéré. Ça, c'est très important, puisque bien entendu, les Grecs souffrent beaucoup du manque de soins. Ils ont créé un parc pour enfants. Enfin, ils font vraiment revivre et revivre intensément ce quartier. Cela étant, ils sont aussi toujours attaqués jour et nuit, en fait, par les forces de l'ordre. Donc, c'est une lutte permanente.
On peut peut-être rappeler l'étiquette politique de ce gouvernement actuel.
Eh bien, c'est droite-droite.
Oui, sachant que le précédent était... de gauche plus ou moins, et qu'en fait, c'était pas tellement plus facile pour les habitants d'Exarchia. Mais à partir du moment où, je ne sais plus le nom du nouveau chef du gouvernement, a été élu, en fait, il s'est carrément fait élire. Dans son programme, il y avait le nettoyage d'Exarchia. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il avait mis en avant dans sa campagne. Et donc, sitôt élu... le quartier a été investi par de très nombreuses forces de l'ordre et le démantèlement des squats a commencé, puis il y a eu une pause et puis c'est revenu parce que ouais, pour l'État c'est des opérations coûteuses, compliquées et surtout qu'en fait c'est pas simple d'empêcher les gens de vivre.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA,
la radio du DIWA
107.5
101.7
FM.
Est-ce qu'il y a une volonté de rendre nomades des populations, comme ça, à les obliger à se déplacer?
Je dirais pas nomades, je dirais les... je sais pas, regarde par exemple ce qui se passe pour le moment à Paris avec les JO. Dans le Val-de-Marne, Val-de-Marne, c'est ça, il y a un énorme squat d'exilés qui a été vidé en prévision des JO. De nombreux, alors on n'a pas de chiffres, mais de nombreux SDF ont été déportés, il n'y a pas d'autre mot, vers par exemple Rouen ou Bordeaux. Donc en fait ils font un nettoyage social de la ville en préparation des JO, et donc en fait c'est pas tellement de se mettre dans une perspective de nomadisme des populations, en fait c'est de les chasser pour pouvoir y installer autre chose de plus
lucratif,
de plus policé, de plus de plus contrôlable.
Ceci dit, à mon idée, un État bienveillant veille justement à ce que cette population puisse être relogée, mais là, ce n'est pas du tout le cas. On leur demande de partir et puis.
Alors, je ne connais pas d'État bienveillant. Je connais des États qui, pour des raisons conjoncturelles ou stratégiques, peuvent à un moment mettre en branle des politiques publiques à l'égard des populations les plus fragiles. En fait, c'est juste une parenthèse qui va de 1945 à 1975, enfin, milieu 85 maximum. Hein.
Et ce qui est ma génération, hein, ce que voilà, j'ai connu. Donc
c'est-à-dire, c'est, ça, c'est ce que tu as connu, effectivement.
Oui.
Et donc, en fait, beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ont, je ne sais pas, moi, entre 55 et 90 ans, ont connu cette période-là et peuvent avoir même, pour les je ne parle pas des personnes qui auraient, par exemple, plus de 80 ou 90 ans, mais pour cette génération qui est née, en gros, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont vraiment l'impression que c'est le fonctionnement normal de l'État que d'être une sorte de bouée de sauvetage. Mais en fait, pas du tout. Si on regarde l'histoire des États sur des milliers d'années, ces 30 années-là sont parfaitement exceptionnelles et on peut même étudier les conditions pratiques qui ont créé cet État social. Mais aujourd'hui, c'est terminé, la parenthèse se referme, en gros, depuis le milieu des années 90. Et donc, en fait, on voit le visage de l'État qui est, en fait, de contrôler les populations et pas du tout de les sauver de la misère, de l'oppression ou que sais-je. Non, il peut le faire si un flux d'argent suffisant et l'explosion de la société de consommation, donc d'avoir des gens solvables pour pouvoir consommer, se manifeste. Mais là, c'en est fini. Donc non, l'État n'est pas protecteur. Il est, au mieux, c'est un organisme contrôle.
C'est pire. Pardon. Ce film est à but non lucratif. Comment est-il exploité et comment peut-il tirer des bénéfices et pour qui d'ailleurs?
Ouais, c'est pas Gisèle. Hein.
Ah oui, moi je pense que effectivement c'est la volonté de Yanis Ouluntes de faire de l'éducation populaire aussi. Il a fait ça pendant... Enfin, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas parler pour lui, mais pour une grande partie de sa vie, c'est ce qu'il a fait. Et lui-même, il a été éduqué comme ça, et il a à cœur de transmettre cette éducation populaire et les luttes qui peuvent éventuellement s'en suivre, et qui s'en suivent, en effet. Je pense que... Oui, c'est sa personnalité, c'est son travail.
Et donc, comment avez-vous eu ce film à projeter? Est-ce qu'il existe malgré tout un circuit? Et est-ce qu'il peut être aussi demandé pour d'autres projections à votre connaissance?
Oui, ça c'est sûr, mais j'ai regardé un petit peu et la carte de France où ce film-là, Nous n'avons pas peur des ruines, a été projeté, c'est incroyable. Incroyable. J'ai l'impression que la France entière a dû voir ce film. Enfin, en tout cas, ça a été projeté dans beaucoup, beaucoup de régions. Et tu demandais aussi comment ça pouvait fonctionner. Ben, ça fonctionne justement par les collectivités, par les groupes d'habitants qui se motivent pour faire passer cette parole qui est extrêmement importante de résistance. Oui.
Et donc les PICS, c'est en quelque sorte aussi une de ses fonctions, c'est de proposer de l'éducation populaire au moyen de ce film, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres approches que vous opérerez aussi?
Bah, clairement, oui, l'éduc-pop, c'est le fait de pouvoir donner des éléments de réflexion, le fait de proposer aussi de proposer des modes d'auto-organisation, d'auto-administration. Ça nous paraît essentiel parce qu'en fait, c'est évident que dans des sociétés de masse, donc dans lesquelles on est toujours et pour encore un moment, dès que tu t'organises, il faut quand même faire un peu d'administro. Et donc en fait, nous, ce qu'on met en avant, c'est que ces fonctions d'auto-administration, elles doivent être partagées parmi le plus grand nombre. Et que chacune puisse à un moment s'emparer d'une fonction d'administration du syndicat. Et ça fait partie aussi du bagage qui permet c'est ce que je crois, hein, d'échapper à l'emprise de l'État, parce qu'en fait, si on, simplement on sort d'une manière isolée, sans capacité d'orga, à moins d'être assis sur des montagnes de fric qui permettraient de s'acheter des terrains, que sais-je, voire même d'embaucher des gens pour mettre ce terrain en valeur, même point de vue alimentaire, ouais, ça c'est autre chose, quoi. Mais à partir du moment où on s'auto-organise, oui, ça doit, il y a des choses qui doivent être apprises, réapprises. Hein, c'est un peu comme quelqu'un qui se mettrait à l'agriculture après avoir fait, je ne sais pas moi, des études à bac plus 4 ou 5 en je ne sais pas quoi. Ben oui, il doit réapprendre des choses. Et en fait, les modes d'auto-organisation de type communautaire, on doit les réapprendre aussi. Et c'est aussi une des, pour moi, une des fonctions d'un syndicat autogéré, c'est de proposer ces bancs d'essai sur l'auto-organisation. Et à partir de là, ben, on peut s'intéresser au, enfin, c'est la base quand même, hein, pour un syndicat, s'intéresser au droit du travail, à la défense des travailleurs et des travailleuses, mais aussi à tous les autres aspects de la vie, le logement, le positionnement des habitants par rapport au tourisme de masse, la production alimentaire, voilà, tout ça, ce sont des aspects qui peuvent être portés par, par le syndicat, qui n'a pas que vocation à faire du prud'homal, hein, par exemple.
Gisèle, vous-même, qu'est-ce que vous amenez dans cet EPIX ?
Très bonne question.
Elle amène elle, c'est énorme déjà.
Très bonne question. Alors, c'est très difficile de dire, de parler de soi déjà. Qu'est-ce que j'apporte ? J'apporte ma présence, mon écoute et la compréhension de ce mode de fonctionnement auquel j'adhère complètement, mais qui n'était pas forcément en permanence dans ma pensée. Et de le diffuser, d'en parler plus, d'une façon plus précise et plus consciente. Voilà.
Et toi-même, Seb, depuis cette mise en place de l'EPIX, est-ce que pour toi cela permet d'évoluer aussi dans les réflexions et de l'approche de ce territoire, comment il fonctionne, comment peut-être améliorer, de quoi te nourrit cette structure ?
Disons que pour moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, comme je l'avais fait pendant le mouvement des Gilets jaunes, remiliter dans le DIWA. Parce qu'en étant dans le syndicat, le STP 26, qui est plutôt centré sur la façade rhodanienne de la Drôme, en gros, entre Valence et Montélimar, j'étais pas souvent là pour militer à DIWA, parce que j'avais déjà d'autres engagements ailleurs. Et du coup, aussi dans une optique de faire local, en fait, de bosser, de militer là où on habite, je suis vachement content de la création de ce syndicat, parce que c'est une manière d'organiser, de participer à l'organisation aussi de la vie dans le DIWA, là où j'habite, là où je travaille. Donc moi, ça me fait plaisir vraiment à ce niveau-là. Et donc, c'est, individuellement, c'est comme ça que je le vois, quoi.
Déjà, une activité bien remplie.
Oh, ça prend un peu de temps, hein. On en est, je crois, à 3 ou 4 trajets. La dernière était la plus, on va dire, la plus structurée, la plus productive. On sent que ça commence à se mettre en place. La prochaine, c'est le 17 mai. Sur le plan pratico-pratique, on attend toujours encore quelques informations de la Confédération nationale du travail pour pouvoir se mettre vraiment à bosser avec les autres syndicats et la Confédération elle-même. Donc, ça, c'est pas mal, parce que du coup, ça laisse un peu de temps aussi aux adhérents, adhérentes nouvellement arrivées à la CNT de découvrir tranquillement l'environnement et voilà, donc ça se fait doucement, ça se fait tranquillement.
Au-delà de ces assemblées générales et ce rendez-vous pour cette projection, est-ce qu'il y aura des rencontres peut-être régulières avec le public, hein, je reviens là-dessus, mais est-ce que pour vous faire connaître, est-ce que vous prêterez justement à proposer des rendez-vous peut-être sur des aspects culturels notamment ?
Bah, donc là déjà, ça c'est une. Alors qu'on est existant depuis pas très longtemps, ben ça déjà c'est une occasion. Le film de Yuluntas, c'est déjà une bosser sur un aspect culturel. Hein, c'est... et puis on prévoit aussi une formation. Alors elle pourra pas être exhaustive, mais sur le droit du travail pendant l'été. Parce qu'en général, le militantisme pendant l'été, ça se calme quand même un peu. Hein, c'est beaucoup des festivals et des rencontres à caractère festif. Et en fait, on en profite très bien pour proposer une formation syndicale de base, un peu expliquer comment ça marche, les sources du droit qui permettent d'aborder le droit du travail. Voilà, c'est une manière de faire aussi de l'éduc-pop. Et puis bah, après, c'est suivant ce que les adhérents, les adhérentes proposent, ont envie de faire. Il n'y a ni impératif, ni borne à ne pas dépasser. On fait comme on veut à l'intérieur du syndicat.
Et puis, donc, ce rendez-vous du 12 mai à 19h, ça sera la salle communautaire. Ouverture des portes à 19h, projection à 20h et une ouverture des portes à partir du 19h. Ça permettra d'échanger entre vous, de faire connaissance avec les uns les autres.
Voilà, s'il y en a qui veulent nous aider à installer table et chaises, bah, ce sera plutôt entre 19h et 19h30. Et à partir de 19h30, bah, normalement, on doit être à peu près OP pour accueillir les personnes qui veulent assister à la projection. Et puis, normalement, projection à 20h.
Et après, rangement participatif.
Voilà. Donc, autogestion, évidemment. Si il y en a qui veulent rester pour nous aider à ranger, bah c'est
cool
aussi.
Est-ce qu'il y a une publication sur Internet qui informe un peu le public sur cette activité des EDPIX?
Non, pas encore. On n'a pas de site internet.
Il y a moyen de vous joindre autrement?
Ça, par contre, il y a moyen de nous joindre en envoyant un mail à EDPIX, CCD26, donc etpics-6ccd26@riseup.net. Donc, que ce soit une volonté de bosser avec nous ou à problème avec un employeur, il suffit d'envoyer un mail à cette adresse et on répondra aussitôt.
Gisèle et Seb, merci beaucoup en tout cas d'être venus sur RDWA pour nous parler de cette projection du film « Nous n'avons pas peur des ruines ». Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. À toi aussi, merci Yves.
Merci Yves.
Au revoir.
À la prochaine.
Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα βάτα τελειώνουν.
Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια ευρύτερη επιχείρηση καθάριση των εξαρχείων.
Περιμέναμε...
Αυτό που κάποιοι έχουν ονομάσει άβατο. Αυτό είναι ένα στοίχημα που μένει να δούμε αν θα κερδίσει.
Επιχείρηση της αστυνομίας για την εκένωση 4 υποκαταληψιτηρίων. Σε 2 από αυτά είχαν κατασταθεί 143 πρόσφυγες και μετανάστες, ανάμεσά τους και 35 ανήλικα παιδιά.
I live in Iran because in my country we have dictator. We are not free. In Greece, in Notara, I understand how, what is this the theory, what is this the solidarian, what is this the life.
Δίνει ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα αυτοοργάνωσης, ένα παράδειγμα ισότητας.
To break out of these chains is already a big win.
Αυτό που μας διδάσκει τους τρόπους είναι ο ίδιος ο αγώνας για την κοινωνική αλλαγή. Μέσα από αυτόν γινόμαστε ικανοί.
Όταν σταματάει ο φόβος, ξεκινάει η ελευθερία. Και όταν ξεκινάει η ελευθερία, μέσω της δράσης, της δημιουργίας και της αλληλεγγύης, ξεκινάει η πραγματική ζωή.
Έχουμε την εξής περίπτωση εδώ πέρα σε αυτή την παραλία. Έχουν εκμεταλλευτεί την παραλία με ομπρέλα και ξαπλώστρα.
We'll be right back.
Σε αυτόν τον αγώνα χωράνε όλοι, όλοι όσοι αγωνίζονται για ελευθερία και ισότητα, και όλοι μαζί θα φτιάξουμε το καινούργιο που χρειάζεται.